Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti. 2 heures d'infos, de reportages, de débats, d'invités. Avec ce soir un compte à rebours et une question. J-100, dans 100 jours, les JO de Tokyo. Qui sera le porte-drapeau de la délégation française? Ou plutôt, qui seront-ils? Car pour la première fois, eh bien, ils seront deux, un homme et une femme, officiellement désignés fin juin. Oui, mais qui alors? Il y a des candidats pour succéder à Teddy Riner, et parmi eux, un champion olympique à Londres et qui visera l'or cet été encore, le perchiste Renaud Lavillenie sera l'invité d'RTL Soir à 18h35. Pour l'heure, le journal, c'est avec Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce mercredi 14 avril.
Et à la une ce soir, la crise sanitaire et le gouvernement qui maintient coûte que coûte son objectif du 15 mai. Réunion demain à l'Elysée pour dessiner les contours des réouvertures. Dans ce journal également, Olivier Duhamel qui reconnaît l'effet d'agression sexuelle sur son beau-fils. Et puis un petit cadeau, un nouveau titre signé Mick Jagger.
Eh oui, il est toujours là, mais évidemment ça va nous plaire. Ce qui est toujours là, c'est le gel. Hein. Il y en a encore au programme demain matin, Peggy Broche.
Exactement, Vincent. Moins 3 degrés à Auch, Clermont-Ferrand, Nevers, Reims, moins 1 à Alençon, Orléans, Mulhouse. Les maximales, elles resteront fraîches également au nord, comprises entre 9 et 13 degrés, jusqu'à 17 au sud. Côté ciel, il fera beau le matin. Petit bémol sur le nord, Pas-de-Calais et les Alpes du Sud, avec un peu plus de nuages et un risque d'averse. Et en journée, les nuages seront nombreux sur le nord-est, la façade est et jusqu'en Corse, avec ponctuellement une averse et de la neige sur les reliefs à basse altitude. Et à l'ouest, ce sera ensoleillé.
Couvrez-vous encore demain matin. Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et pour commencer, la disparition de l'un des escrocs les plus célèbres du monde, Bernie Madoff, est mort aujourd'hui aux États-Unis, où il purgeait une peine de 150 ans de prison. Bonsoir Karine Otten, vous êtes sur place pour RTL. Madoff avait 82 ans, il était très malade et sa demande de libération conditionnelle avait été refusée il y a quelques mois.
Oui, en juin dernier, Bernie Madoff avait expliqué avoir assez souffert de ses 11 années passées derrière les barreaux, mais avec une peine de 150 ans de prison, les 65 milliards de dollars qu'il a escroqués et surtout les centaines de ses victimes ruinées, on comprend que cela était impossible pour le juge d'accepter. Figure de Wall Street, Bernie Madoff promettait des investissements à haut gain et stables, mais il cachait un secret. Pendant des années, il a monté une fraude pyramidale où il payait ses anciens investisseurs avec l'argent qu'il récupérait des nouveaux. Et lors de la crise économique de 2008, alors qu'il ne parvenait plus à attirer d'investissement, son montage s'est écroulé. Ses victimes, de riches célébrités, mais pas que, des gens normaux, surtout en train de créer un pécule pour leur retraite. À 62 ans, Steve Imhoff a dû hypothéquer son appartement et stopper ses dépenses.
J'étais au bord du suicide pendant au moins un an. Ça a été épuisant émotionnellement. C'est comme du stress post-traumatique.
Bernie Madoff avait avoué les faits et écopé de 150 ans de prison. Après avoir revendu ses propriétés et son yacht, la justice cherchait encore 17 milliards de dollars pour rembourser les victimes qui, pour l'instant, n'ont touché qu'une toute petite fraction de cette somme. 2,2 milliards d'euros sur les 14 réclamés.
La plus grande escroquerie financière de l'histoire, Karine Otten, aux États-Unis pour RTL.
Sur le front du Covid, il y a eu un nouveau conseil de défense ce matin.
Oui, des signes encourageants, dit le porte-parole du gouvernement, mais la troisième vague n'est pas derrière nous, loin de là.
Le pic des hospitalisations n'a pas encore été atteint. Cela signifie que nous avons encore devant nous des jours très difficiles.
Nous avons encore devant nous des jours très difficiles, dit Gabriel Attal. Malgré tout, Vincent Derosier, pas question pour l'exécutif de renoncer à l'objectif du 15 mai. Une réunion est d'ailleurs prévue demain à l'Elysée.
Oui, une réunion très technique. Quelle date, quelle jauge dans les musées ou les clubs de sport? Quelle modalité d'ouverture, par exemple pour les terrasses de restaurants, passe sanitaire ou non? Tout cela sera à l'ordre du jour. Ce cap de la mi-mai, ce retour à la vie normale est-il tenable? C'est la question centrale de cette réunion. Oui, répond un proche du président, car selon lui, le calendrier d'ouverture, de réouverture, ne sera plus seulement indexé sur les chiffres sanitaires qui sont mauvais, mais aussi sur l'avancée de la vaccination. Et cela donne une marge de manœuvre, une bouffée d'oxygène. Autre dossier épineux qui donne des sueurs froides au sommet de l'État. Le week-end de l'Ascension, il y a une pression très forte de certains secteurs pour rouvrir dès le 15 mai, reconnaît un conseiller qui craint que ces quelques jours fassent fasse flamber les courbes de contamination. L'exécutif promet en tout cas un calendrier à la britannique, très précis. La sortie du couvre-feu, elle, sera très progressive. Comprenez qu'on ne passera pas de 19h à minuit en l'espace d'une semaine. Enfin, aucune communication ne sera effectuée à l'issue de cette réunion, car c'est le chef de l'État en personne qui rendra ses conclusions. Emmanuel Macron s'adressera aux Français dans les 15 jours.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Concernant la vaccination, le gouvernement indique que le vaccin Johnson & Johnson sera bien administré aux plus de 55 ans, comme prévu. Il réaffirme également toute sa confiance dans le vaccin AstraZeneca, un vaccin que le Danemark a choisi ce soir d'abandonner, Bénédicte Tassard.
Oui, Copenhague n'a repéré que 2 cas graves de caillots sanguins après une première injection et les pouvoirs publics estiment toujours que les bénéfices de l'Astra l'emportent sur les effets secondaires. Mais comme l'épidémie est sous contrôle, le Danemark préfère ne prendre aucun risque.
Et dans le même temps, l'Union européenne, elle décide de tout miser ou presque sur le vaccin Pfizer.
50 millions de doses supplémentaires de Pfizer vont arriver d'ici fin mai, 7 millions pour la France donc. Et pour l'avenir, pour lutter contre les variants, vacciner les enfants, les ados, l'Union européenne va privilégier les ARN messagers, confirme Ursula von der Leyen.
Tirant les enseignements de cette pandémie, il faut nous concentrer sur les technologies qui ont apporté la preuve de leur efficacité, c'est-à-dire les vaccins ARN messagers. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes déjà en négociation avec BioNTech Pfizer pour un troisième contrat. Ce contrat portera sur la livraison d'1,8 milliard de doses supplémentaires pour la période 2021-2023.
Et la présidente de la Commission européenne qui précise aussi que ces vaccins et leurs composants seront fabriqués en Europe.
Bénédicte Tassard, la spécialiste des questions européennes ici à RTL.
Et dans l'actualité également ce soir, l'affaire Duhamel. 3 mois après la sortie du livre de sa belle-fille, Familia Grande, le politologue a été entendu hier. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Olivier Duhamel reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Oui, le constitutionnaliste, aujourd'hui âgé de 70 ans, a admis la relation incestueuse imposée à la fin des années 80 au fils de Bernard Kouchner, devenu son beau-fils. Devant les enquêteurs de la brigade des mineurs, Olivier Duhamel a reconnu les viols et les agressions sexuelles commis sur l'adolescent alors qu'il n'avait que 13 ans. Des aveux difficiles, c'est ce qu'indique une source proche de l'enquête à RTL, quand bien même les faits sont connus publiquement depuis plus de 3 mois, vous le disiez. Alors il s'agissait d'une audition libre. Olivier Duhamel était entendu comme simple témoin car les faits sont très probablement prescrits. Le politologue ne pourrait être poursuivi que si d'autres agressions ou viols plus récent était révélé au cours de l'enquête. Cela n'est visiblement pas le cas à ce stade, puisqu'il a pu rentrer chez lui librement après son audition.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
Le meurtrier présumé de Sarah Halimi, lui, ne sera jamais jugé.
Et décision de la Cour de cassation qui confirme l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré. En avril 2017, c'est lui qui avait fait irruption chez cette sexagénaire en criant à l'Akbar. Il l'avait ensuite jeté par la fenêtre. Patrice Spinozzi et son avocat, écoutez.
Il y avait une très forte pression médiatique, politique sur ce dossier qui n'a pas fait varier la Cour de cassation et elle a gardé les règles de droit. Il y a eu plus de 8 experts qui se sont penchés sur le cas de M. Traoré et l'instruction n'a absolument pas été bâclée. Tous les experts ont été unanimes. Lorsqu'il a agi, il a agi sous l'emprise d'une bouffée délirante qui n'est pas l'ivresse liée aux stupéfiants, qui est autre chose, qui est un trouble psychologique. Et c'est ce qu'a retenu la Chambre d'instruction et c'est ce qu'a validé la Cour de cassation.
La Cour de cassation qui retient par ailleurs le caractère antisémite de cette affaire, très loin d'être suffisant, dit ce soir l'avocat de la sœur de Sarah Halimi.
Dans cette affaire, nous avons été de déception en déception. Toute la famille, en vérité, et au-delà, beaucoup d'amis de Sarah Halimi et une grande partie de la communauté juive va être accablée par cette décision, vous comprenez. La justice française ne fait pas ce qu'elle devrait faire. J'aurais souhaité que Traoré, comme n'importe quel assassin, il soit devant la cour d'assises et qu'il soit défendu par un avocat. C'est pas demander la lune. Il m'arrive à penser que ce monde est pris d'une bouffée délirante.
Maître Goldnadel, l'avocat de la sœur de Sarah Halimi, des propos recueillis pour RTL par Guillaume Chiez. Et puis Peggy nous parlait de ces gelées encore aujourd'hui, sans doute aussi demain. Le cauchemar continue pour les agriculteurs. Le gouvernement a promis des aides, mais pour certains arboriculteurs ou viticulteurs, cela ne suffira sans doute pas. Illustration ce soir dans le Gers. Patrick Tégéraud, vous vous êtes rendu à Saragachi, en plein pays d'Armagnac.
De génération en génération, les Périssé sont à la tête des 65 hectares de vignes du domaine de Malartic. Bernard est le patriarche et pour lui, un tel gel est rarissime.
Moi, j'ai entendu ça, raconter ça par mes grands-parents. En 1945, ils ont été gelés le 8 mai. Tout avait été gelé. C'était essentiellement de l'Armagnac, donc en 1945, il n'y a pas eu d'Armagnac. Moi, je n'ai vu ça qu'une fois, en 1991. Alors, on a eu vu quelques fois quelques bourgeons gelés dans le fond d'une parcelle. Mais bon, on savait enlever, je ne sais rien, moi. Disons peut-être 5 arbres ou 10 arbres de vigne, c'est tout.
Cette fois, ils ont perdu plus de la moitié de la récolte. Sébastien Périssé.
Avec des variations selon les cépages blancs, les blancs secs en Côte-de-Gascogne, pour nous, c'est l'essentiel. Là, on est plutôt sur des pertes à 60, 70, des parcelles, même on va jusqu'à 95, pour ne pas dire 100.
Sa belle-sœur Hélène s'occupe de la commercialisation, elle est très inquiète.
Déjà, le Covid nous avait beaucoup freiné, on ne peut plus prospecter à l'export très difficilement, on n'a pas pu faire de salon. Donc ce coup de gel par-dessus, avec des volumes qui vont manquer, nous font craindre de se faire prendre des marchés.
Et ce n'est peut-être pas fini, le risque de gel encore pour quelques jours, mais le plus douter, c'est l'orage de grêle qui serait comme un coup de grâce.
Patrick Tégéraud dans le Gers pour RTL. Allez, courage évidemment à nos agriculteurs. Courte pause dans un instant. La fin annoncée de la guerre sans fin en Afghanistan. A tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et la suite du journal d'Amandine Bégaud avec donc Joe Biden qui s'apprête à tourner une page d'histoire et pas des moindres.
Le président américain doit annoncer le retrait des troupes d'Afghanistan. Ce sera pour le 11 septembre prochain, date symbolique, comme l'a expliqué dès ce matin Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.
Almost 20 years ago.
Il y a presque 20 ans, alors que les États-Unis étaient attaqués le 11 septembre, ensemble, nous sommes partis en Afghanistan. Nous nous sommes assurés qu'on ne nous agresse plus et que l'Afghanistan ne soit plus un repère de terroristes. Ensemble, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés et maintenant, il est temps de ramener nos troupes à la maison.
Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.
Ouais, on y revient dans quelques minutes avec le général Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Il sera avec nous.
Avant cela, les JO, c'est dans 100 jours tout juste et ça s'active côté français, JO de Tokyo bien sûr. Comme on vous l'annonçait dès ce matin sur RTL, il n'y aura pas un porte-drapeau, mais deux, un homme et une femme. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir.
12 candidats ont été désignés cet après-midi.
Oui, parmi ces candidats, on trouve le perchiste Renaud Lavillény, la judoka Clarisse Agbenienou, l'athlète Mélissa Robert-Michon, le nageur Florent Manaudou ou encore la championne olympique en titre de planche à voile, Charline Picon.
Porter le rôle du porte-drapeau toute seule, je ne sais pas si c'était fait pour moi, mais par contre à deux, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise là-dedans et c'est chouette. Je trouve que c'est une belle idée.
Un homme et une femme, mais qui va concrètement porter le drapeau? Question posée au président du comité olympique, Denis Masséglia.
C'est un drapeau à quatre mains. Il faut laisser faire la spontanéité des athlètes. Peut-être qu'ils se le passeront. En tout cas, ils pénétreront dans le stade à quatre mains. Ça, c'est à peu près sûr.
Ce qui est sûr également, c'est la revalorisation des primes de médailles. Un titre à Tokyo rapportera 65 000 euros, qu'il s'agisse d'ailleurs d'athlètes valides ou handicapés. S'ils ne disputent pas les mêmes jeux, tous auront désormais la même identité, celle de sportif de haut niveau qui représente la France.
Jean-Michel Rascol, et donc vous le savez, l'un de ses candidats sera avec nous dans quelques minutes à 18h35, Renaud Lavillény.
Le foot est plus que quelques heures à attendre avant de connaître l'adversaire du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce sera soit Manchester City, soit Dortmund. Le match a lieu ce soir en Allemagne.
Et puis la bonne nouvelle quand même.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et en plus, je vous l'ai promis, ce nouveau titre signé Mick Jagger, un duo avec Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana, les deux rockers, y évoque le confinement, ça s'appelle Easy Sleazy, et ça donne ça.
Ah, il a toujours les doigts branchés dans la prise, Mick.
Ils y parlent de tout, des privations, de ceux qui se sont improvisés les cuisiniers pendant le confinement, tout ça, l'ennui.
Et puis il se moque aussi de la théorie du complot dans ses textes. Très rock, donc Mick Jagger et Dave Grohl, l'ancien batteur de Nirvana, pour ce titre qui évoque la sortie du confinement, on l'espère tous, évidemment. Merci Amandine.
À tout à l'heure.
Vous revenez tout à l'heure, évidemment, à 18h30. Joe Biden va annoncer dans quelques instants, officiellement, on vous en parlait dans le journal, le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On en parle tout de suite avec le général Trinquant, invité d'RTL Soir.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, je vous le disais, le général Dominique Trinquant, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. On parle du retrait américain d'Afghanistan parce que le président Joe Biden va l'annoncer. Alors finalement, ce sera à 20h. Son intervention a été légèrement décalée, mais on sait ce qu'il va dire. Il va annoncer le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Les derniers soldats américains devraient partir sans condition d'ici le 11 septembre 2021, date évidemment très symbolique, 20 ans après, et les troupes de l'OTAN quitteront de la même manière le territoire afghan. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique, va dire Joe Biden. C'est vrai qu'on parlait d'une guerre sans fin, et avant de parler de ce retrait quand même, général, c'est quand même la démonstration que lorsqu'on s'engage sur un terrain à l'étranger, on sait quand ça commence et on ne sait jamais quand ça finit.
Bien sûr, c'est... On ne sait jamais comment ça finit. Et pour revenir sur la guerre sans fin, c'est la fin de la guerre américaine sans fin en Afghanistan. Je ne voudrais pas remonter à Alexandre le Grand, mais j'invite tout le monde à lire Churchill, La guerre de Melaka, quand il était jeune lieutenant. Il a écrit un livre que j'ai lu à propos de la guerre d'Afghanistan, fabuleux, parce que c'était il y a plus d'un siècle, et on se retrouve exactement dans la même situation. Donc, si vous voulez, il y a eu la guerre des Russes, il y a eu la guerre des Américains ensuite, les Américains avec l'OTAN, bien sûr, et il est temps de clore la page après 20 ans d'un succès plutôt mitigé.
Alors aujourd'hui, les Américains ne sont plus que, je crois, 2500 environ.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils servent à 2500?
Alors ils sont maintenant, ils ne font plus de combat. Ils sont moniteurs, j'allais dire, et ils travaillent avec l'armée afghane. Il y a eu des retraits progressifs. Il y a eu jusqu'à 100 000 hommes quand même déployés sur
dans les années 2010-2011.
Oui, c'est ça. Ouais. Une sorte 100 000 hommes. Ensuite, il faut se souvenir que l'opération au départ avait un but. C'était après le 11 septembre. C'est pour ça que la date de retrait du 11 septembre est symbolique. Après le 11 septembre, c'était d'aller chercher Oussama Ben Laden, qui était protégé par les talibans. Et c'est pour ça que les Français ont accompagné les Américains. Ne nous trompons pas, la France était au Conseil de sécurité à l'époque, et c'est la première fois qu'on a voté une décision permettant, parce qu'un pays allié de l'OTAN était attaqué, de pouvoir, par self-defense, enfin autodéfense, pouvoir aller les chercher en Afghanistan. Donc c'était ça l'origine.
Et on disait, il était dans les zones tribales, on a bombardé ces montagnes de manière massive, et puis finalement Ben Laden, il a été exécuté au Pakistan.
Au Pakistan, bien sûr, parce que la zone tribale du Pakistan est très très liée à l'Afghanistan, et très poreuse en fait.
Alors on se souvient d'ailleurs très bien de cette photo dans la pièce spéciale où on suit toute l'opération à partir de Washington. Une fois que Ben Laden a été éliminé, pourquoi les Américains ne rentrent-ils pas?
Mais en fait, parce qu'on a changé de stratégie au fur et à mesure. Il y a 20 ans, c'était aller chercher Ben Laden. Ensuite, ça a été la paix éternelle et la démocratie en Afghanistan. Ensuite, ça a été la liberté des femmes. Ensuite, vous voyez, il y a eu des tas de choses. On a changé de stratégie en permanence. Et du coup, on ne savait plus très bien où on en était, parce qu'on voulait, appliquer à l'Afghanistan des normes tout à fait occidentales.
Et ça, est-ce que c'est le rôle des militaires d'aller instaurer la démocratie, ou vous faisiez référence à la place des femmes dans la société afghane?
Alors non, vous avez raison, c'est pas le rôle des militaires, mais il n'y avait pas que les militaires, hein, il faut s'en souvenir. Hein. Il y avait des zones, des provinces qui étaient administrées en fait assez curieusement par les pays, par l'Allemagne, par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, et dedans il y avait beaucoup de programmes civils. Il y avait un programme dont on parle pas aussi, c'est le programme de lutte contre la drogue. Dans le système américain, il y avait une administration qui cherchait à retirer la fabrication de la drogue, qui était une source de revenus pour les Afghans. Donc, il y a eu un mélange des genres extraordinaire, et depuis l'engagement initial qui était assez clair, aller chercher Oussama Ben Laden, on est arrivé à des tas de choses compliquées, et aujourd'hui, en fait, l'accord qui est, parce qu'il y avait un accord, je voudrais rappeler que ça a été porté par trois administrations. Obama, Trump et Biden.
Voilà, mais justement, vous dites, Trump, il avait au départ annoncé, à l'issue d'un accord, le départ pour le 1er mai. Et puis, changement d'administration, Biden arrive. Non, ça ne sera pas le 1er mai. Finalement, ça sera donc le 11 septembre. Mais au passage, l'accord qui avait été passé avec les talibans, il devient caduc.
Parce que l'accord avec les talibans, il était assez simple. Il disait, OK, nous partons à une seule condition, c'est que vous ne souteniez pas les extrémistes à l'extérieur de l'Afghanistan. Donc en gros, on se lave les mains de ce qui se passe en Afghanistan, mais vous ne soutenez pas ceux qui viennent à l'extérieur. Tout le monde, tous les analystes vous disent, cet accord ne tiendra pas. Les talibans vont vous le dire et puis feront le contraire 6 mois plus tard. Donc là, M. Biden a analysé les choses. Il a changé du 1er mai, parce que le 1er mai, c'est dans 15 jours, hein, donc ouais. On a peu de temps. Donc du 1er mai au 11 septembre. Aujourd'hui, il y a une réunion à l'OTAN dans laquelle il va y avoir coordination pour que le retrait américain se fasse au bon entente avec en particulier les Britanniques et les Allemands qui sont toujours là. Il n'y a plus de Français depuis 2014. Et donc, il y a une coordination pour les retirer, mais sans voiler la face, on sait très bien que l'accord avec les talibans qui avait été prévu par le président Trump aurait très peu de chances d'être appliqué.
Donc ça veut dire que ça fragilise encore un peu plus le pouvoir en place, le président Ashraf Ghani.
Oui, mais si vous voulez, il y avait une réunion il y a 15 jours à laquelle j'avais été invité d'ailleurs avec des Afghans à Paris, avec par exemple le fils du commandant Massoud qui était présent, et tous disaient, de toute façon on recommence la guerre.
Ah oui.
Ah mais oui, ben bien sûr, ils ne vont pas accepter que les talibans... Et puis vous savez...
On recommence la guerre, c'est une chose, mais est-ce que ça veut dire que l'Afghanistan va de nouveau devenir une base pour les terroristes djihadistes,
j'allais dire, très égoïstement, c'est ce qui nous intéresse, nous.
Oui.
C'est que ça ne devienne pas une base. Tant qu'ils vont combattre là-bas, ils ont peu de chance. C'est un peu comme au Sahel, si vous voulez. Tant qu'on combat les djihadistes au Sahel, ils ne viennent pas chez nous. Mmh. Bon, tant qu'ils combattent en Afghanistan, ils ne viendront pas chez nous. Mais quand je disais qu'ils vont combattre, évidemment, parce qu'on voit de façon un peu homogène l'Afghanistan, qui n'est absolument pas homogène. Il y a des turcophones, il y a des ouzbeks, il y a des mélanges qui, pour nous, nous paraissent très ésotérique, mais il y a tous ces mélanges-là. Et donc, par exemple, la vallée du Panjshir, où était le commandant Massoud, n'acceptera jamais que les talibans viennent imposer leur loi au Panjshir.
Donc ça veut dire que ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les Occidentaux, pour les Européens, à moyen terme.
Je pense
pas dans l'immédiat. Mais...
Oui, non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il n'y aura plus d'intervention directe des militaires avec des grosses masses de militaires. En revanche, il y aura toujours des relations sur le plan du renseignement.
Alors voilà, excusez-moi, je vous interromps parce que je trouve ça intéressant. La question, est-ce que c'est vraiment un retrait total ou est-ce que les Américains, puisqu'ils disposent quand même des moyens technologiques pour le faire, vont continuer à surveiller ce qui se passe sur le terrain?
Mais il le faut. Il le faut parce qu'il faut voir à quel niveau, à quel moment la menace qui est là-bas pourrait être exportée et à quel moment un certain nombre de djihadistes vont aller s'entraîner là-bas. Comme il l'avait fait contre les Russes, ça se rappelait que les talibans, au départ, ont été équipés par les Américains.
Bien sûr.
Donc, combien vont s'entraîner là-bas pour pouvoir exporter? Donc, il va falloir continuer à surveiller tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas d'engagement militaire au sens visible des choses, mais dans le domaine du renseignement, il est important de continuer à suivre toutes ces opérations.
Mais comment ça se peut techniquement? Est-ce que ça veut dire quand même que les Américains vont laisser sur place un certain nombre d'agents? Alors, il y a une ambassade quand même à protéger.
Oui, il y a une ambassade. Enfin, ça, bon, c'est de la protection rapprochée.
Ouais.
Mais il y a des moyens de renseignement, qu'ils soient électroniques, optiques, des satellites, etc., qui permettent de voir des choses. Il va y avoir des renseignements humains qui vont passer probablement par des Afghans qui, depuis 20 ans, ont été formés par des Américains. Donc, ils vont pouvoir passer du renseignement. Et puis, est-ce qu'il y aura un soutien indirect à un certain nombre de gens qui lutteront contre les talibans? Je répète, avec l'idée, la même, je me répète, mais parce que les Français, on est plus intéressés par le Sahel, de tant qu'ils combattent là-bas, ils n'exportent pas la violence, parce qu'ils ont besoin de se protéger sur place.
À l'arrivée, le bilan de cette guerre de 20 ans, le bilan humain pour les Américains, alors, il y a de 2400 morts, je crois.
20 000 blessés.
Ne
les oublions pas.
Et des traumatisés.
Bien sûr. Ces guerres sont traumatisantes pour les familles, bien sûr, qui ont perdu des êtres chers, mais aussi pour les blessés. Il y a eu beaucoup de films qui ont été faits aux États-Unis là-dessus, des blessés qui portent ça toute leur vie. Donc c'est un bilan extrêmement lourd. Je répète, L'erreur majeure, c'est d'avoir changé trois fois de stratégie à peu près en 20 ans. De ne pas avoir un objectif clair et d'en sortir de cette façon-là. D'avoir voulu... C'est là où on se rend compte qu'il faut faire la côte mal taillée entre l'importation de nos valeurs dans des pays qui ne les respectent pas trop et puis le maintien d'un combat aussi pour protéger nos pays. Parce que c'est ça, le fond du
sujet. Parce qu'aujourd'hui, les Américains partent, c'est difficile pour eux de dire « mission accomplie ».
Non, c'est très difficile.
Alors qu'ils auraient pu le faire après l'élimination de Ben Laden.
Oui, mais souvenez-vous, ça a mis beaucoup de temps quand même. Énormément de temps. Et puis, comme vous le disiez, ça s'est passé, ça s'est pas passé en Afghanistan. Ça s'est passé... Là, il y a un sujet important aussi, hein, avec le Pakistan. Parce que les services de renseignement pakistanais sont très imbriqués avec ce qui se passe là-bas, en Afghanistan. Ouais. Donc, il y a une relation aussi à établir. Hein.
Ouais, ce qui veut dire qu'évidemment, l'histoire n'est pas terminée. Hein.
Non, c'est ce que je disais en introduction. C'est la fin d'une partie de la guerre américaine. L'Afghanistan, depuis Alexandre le Grand, a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce retrait qui devrait finalement être annoncé officiellement dans environ une heure et demie par Joe Biden. Merci Général Trinquant d'être venu ce soir sur RTL. Dans un instant, l'œil de Valérie Trier-Valeur qui s'inquiète ce soir pour la santé mentale des Français. Ouais, il n'y a pas que nous.
RTL Soir.
18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et à 18h30 sur RTL, Amandine Bégaud nous rappelle l'essentiel de l'info.
Et après le Brésil, les liaisons avec d'autres pays pourraient faire l'objet de restrictions. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, à l'issue d'un nouveau conseil de défense. Emmanuel Macron donne jusqu'à lundi au gouvernement pour mettre en place des mesures plus contraignantes en la matière. Demain, le chef de l'État réunira autour de lui ses principaux ministres pour évoquer le scénario des réouvertures. Objectif, tenir la date du 15 mai. Dans le même temps, la Belgique, elle annonce ce soir la réouverture de ses frontières à partir de lundi, et ce, sans motif. Dans l'actualité également, ces aveux d'Olivier Duhamel. Le politologue a été entendu hier par les enquêteurs. Il reconnaît les faits d'agression sexuelle révélés par sa belle-fille il y a 3 mois dans le livre La Familia Grande. Et puis c'était sans aucun doute l'un des escrocs, je vais y arriver, les plus connus dans le monde, l'auteur de l'une des plus grandes arnaques financières. Bernard Madoff est mort aujourd'hui en prison. Il avait 82 ans.
Merci Amandine. Vous revenez tout à l'heure pour...
Il y a un an, il y a un siècle.
Et on va parler télé.
Et oui, les tout débuts de la télé, c'était un 14 avril.
Oh là
oui.
Là, il y a une éternité de ça.
Oui.
La météo, Peggy Broche, attention, demain encore, il va faire froid.
Oui, avec de nombreuses gelées sur l'ensemble du pays, sauf sur le sud-est. Les maximales, elles seront stationnaires, donc encore sous les normales, de 9 à 13 au nord, jusqu'à 17 au sud. Globalement, la journée sera belle, bien ensoleillée le matin, sauf sur le Nord-Pas-de-Calais et les Alpes du Sud, avec un ciel chargé, quelques petites averses. Ces averses s'étendront dans la journée à la Corse pour la partie sud, à la Normandie pour le nord, de la neige également sur les reliefs à basse altitude sur la façade est. Et puis les nuages seront plus nombreux au nord et à l'est dans l'après-midi, mais ça restera très beau à l'ouest.
Merci Peggy, à tout à l'heure. C'est l'œil de Valérie Trier-Veller, puisqu'on est mercredi soir. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Vincent.
Alors vous voulez nous parler de psychiatrie liée au Covid, justement le jour où Emmanuel Macron, lui, a été en visite au CHU de Reims dans un service de pédopsychiatrie.
Oui, exactement Vincent. Et cette visite du président, elle montre à quel point la situation aujourd'hui est préoccupante. Au moment où la France s'apprête à franchir le seuil symbolique et effrayant des 100 000 morts, il y a un autre aspect dont on a moins parlé, mais un aspect tout autant dramatique au Covid, ce sont les conséquences psychiatriques et elles sont de deux sortes.
Expliquez-nous.
Deux sortes. D'abord parce que les médecins ont découvert des suites psychiatriques chez certains malades du Covid. Ouais. Non seulement vous avez le Covid, mais en plus, vous avez ensuite des symptômes liés à la psy, des mouvements d'humeur ou de dépression. Il y a eu une première étude très importante qui a été publié par le très sérieux Lancet Psychiatrie et qui a démontré ses conséquences. Si le malade a été intubé, ses conséquences sont encore plus importantes. Un tiers des malades seraient touchés, ce qui est colossal. Hein, mais rien encore à côté de ceux qui voient un trouble psychiatrique se développer dû aux angoisses liées au confinement ou à la peur. Là, on parle de dépression, de troubles post-traumatiques ou cognitifs, des angoisses de mort également. Enfin, tout ça est encore à l'étude en France, aux États-Unis et dans bien d'autres pays.
Mais là, vous parlez de ceux qui ont été malades et pour ceux qui n'ont pas été touchés par le Covid.
C'est ce qui inquiète aussi beaucoup les spécialistes, et justement, c'est chez les enfants et les adolescents, et c'est pourquoi Emmanuel Macron est allé aujourd'hui dans un service de pédopsie. Et d'ailleurs, c'est un dossier que suit de très près la première dame Brigitte Macron. Est-ce que vous avez une idée, Vincent, du nombre d'hospitalisations chez les moins de 15 ans?
Absolument
depuis
aucune.
Le début?
Non.
Elle a augmenté de 80% depuis le début de l'épidémie, en un an. 80%, c'est énorme.
D'hospitalisation pour problèmes psy.
Pour les moins de 15 ans.
C'est fou.
Des idées suicidaires, des dépressions. Ce chiffre alarmant, il nous a été donné par Angèle Consoli, qui est pédopsychiatre, ouais, et qui est membre du conseil scientifique. Quoi, elle a alerté le président.
Ils vont avoir du boulot, les psychiatres, ils vont être débordés.
Oui, ils en ont déjà beaucoup, mais bientôt ils risquent d'être occupés autant que les médecins réanimateurs. Ils s'attendent à être débordés dans les mois qui viennent, parce que beaucoup de jeunes ne consultent pas encore, alors que la situation sanitaire développe des formes de pathologies d'anxiété, de dépression, comme je vous disais, et encore de tendances suicidaires, même chez de jeunes enfants. Certains parents voient leurs enfants se renfermer, perdent goût à ce qu'ils aimaient auparavant, perdent l'appétit, parfois les amènent aux urgences. Mais si beaucoup de parents se préoccupent de leurs enfants, ils hésitent souvent à consulter pour eux-mêmes.
Ouais, parce que c'est vrai que ça fait plus d'un an que ça dure cette affaire, et qu'un an pour un enfant, c'est une éternité.
C'est énorme, et puis c'est surtout l'idée de ne pas voir de perspective, de fin à cette histoire.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je ne suis pas médecin, Vincent. Il y a Michel Simet sur cette antenne qui pourrait peut-être vous répondre. Mais je vois tous ces appels de psychiatres qui s'inquiètent vraiment pour l'avenir. Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que la crise économique, l'impossibilité de se projeter, aura des impacts sur notre santé mentale. Personne n'est à l'abri. Alors il faut consulter avant que des troubles ne s'installent réellement ou qu'ils développent des addictions comme l'alcool, parce que c'est une des conséquences en ce moment. Alors, notons tout de même que les consultations chez les psys ont été multipliées par 15. C'est pas rien non plus. Le gouvernement a vraiment conscience de cette bombe à retardement et vient d'annoncer par la voix de Franck Bélivier, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais nous avons un délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, un état des lieux. Mais ce n'est pas un état des lieux qu'il faut, c'est de l'action tout de suite. Il ne faudrait pas que ça traîne. Il va falloir aller très très vite, sinon on va avoir ceci.
La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin.
Alors, restez là, parce que vous êtes quasiment en phase avec le président de la République qui vient d'annoncer la mise en place d'un forfait psy pour les enfants déprimés. Voilà. Vous dites, il faut agir, il faut que ça traîne. C'est un premier pas.
C'est un premier pas. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des parents qui hésitent aussi à emmener leurs enfants ou eux-mêmes, parce qu'il faut toujours régler une consultation.
On y reviendra évidemment de cette annonce d'un forfait psy pour les enfants déprimés. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne soirée à tous.
Et à la semaine prochaine, Valérie
Thier, bonne santé mentale à
sur
tout
RTL,
le monde.
Évidemment, on essaye de la garder avec ou sans Covid. On marque une courte pause, et puis dans un instant, ce sera quelqu'un qui va toujours plus haut. Vous voyez de qui je veux parler? Renaud Lavillény, le perchiste, médaillé olympique à Londres. Il visera encore une médaille d'or à Tokyo. On est à 100 jours des Jeux, et en plus, il veut porter le drapeau.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
À 18h38, le deuxième invité d'RTL Soir nous tend la perche et on l'a saisie avec bonheur. Bonsoir Renaud Lavillény.
Bonsoir.
Champion olympique à Londres, deuxième à Rio, ex-recordman du monde. Merci d'être en direct avec nous de Clermont-Ferrand. On va parler des Jeux de Tokyo, évidemment, dans 100 jours. Mais avant ça, donnez-nous des nouvelles de votre forme physique. Comment allez-vous? Ou plutôt, comment va votre mollet? Voilà, on s'interroge.
Ouais, le mollet va bien. J'ai depuis la blessure qui va faire bientôt 6 semaines demain, beaucoup travaillé justement pour pouvoir revenir. Et là, je suis en mesure de pouvoir m'entraîner à 90% normalement. Donc c'est plutôt une très bonne chose, vu que évidemment les JO se rapprochent et que chaque jour devient de plus en plus important.
Ouais, ça veut dire qu'aujourd'hui on est à J-100. Toute votre préparation est focalisée sur cette date.
Ouais, bien sûr. Bah, en plus que, on va dire, s'il y a une date qui ne va pas bouger, c'est celle-là, parce que on sait que la complexité actuellement, c'est que les meetings ou les compétitions d'avant, il y en a certaines qui sont quand même un petit peu incertaines, donc ça complique un petit peu la tâche. Mais là, on est sûr que la date du concours de qualification du saut à la perche va pas changer comme la date de toutes les autres compétitions pour les JO. Donc au moins, on a un avenir qui est à peu près fixe sur les 100 jours à venir. Quoi.
Voilà. Et dans 100 jours, la cérémonie d'ouverture. Et cette année, en tout cas, côté français, ce ne sera peut-être pas le cas partout, parce que chaque pays a le choix. Mais côté français, il n'y aura pas un, mais deux porte-drapeaux. Une femme et un homme. Et vous êtes candidat pour porter le drapeau des Bleus, pour co-porter le drapeau des Bleus.
Ouais, effectivement, c'est déjà il y a 5 ans pour 2016, j'étais dans la shortlist, on va dire. Ouais.
Et puis c'était Teddy Riner qui l'avait emporté. C'est vrai que,
ouais, je pense qu'on faisait pas le poids face à Teddy donc on n'allait pas se battre mais ouais. Mais là c'est vrai que cette année avec en plus l'opportunité d'avoir un homme et une femme, ça donne forcément un peu plus de chance, ça répartit un petit peu la tâche pour les deux donc ouais, c'est vraiment pour moi un plaisir de pouvoir être candidat. Et puis après, voilà, il y a être candidat, et puis ensuite, le plus dur va être forcément d'être désigné par ses pairs.
Parce que c'est ça. Et alors, parce que vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a d'autres candidats, on en a parlé dans le journal, par exemple, pourquoi pas Florent Manoudou. On vous demande de faire un peu comme une campagne électorale, de vous vendre, c'est ça?
Oui, alors c'est, je dirais pas autant. Ça va être un petit peu plus, un peu plus bref. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir montrer aux athlètes qui vont être en mesure de voter au mois de juin, tout simplement de leur montrer qu'on est prêt, qu'on est prêt à endosser ce rôle.
Il y a une forme de légitimité. Il y a une forme de légitimité. Votre médaille de Londres et votre deuxième place à Rio, elle vous donne cette légitimité.
Ouais, bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le côté légitimité, qui évidemment les performances sont une chose. Et puis il y a aussi le côté un peu histoire que l'on peut avoir avec les Jeux Olympiques, les valeurs que l'on peut véhiculer. Donc c'est vrai que certains athlètes vont peut-être se pencher plus sur le côté performance pure, et d'autres vont peut-être se pencher sur l'autre côté. Donc il faut l'intérêt, l'objectif, c'est de pouvoir remplir toutes les cases et puis de pouvoir démontrer que l'on est prêt. Après, voilà, c'est un choix et on est tous, les 59 athlètes sont amenés à voter et le choix va être forcément compliqué parce que si on pouvait en mettre 5, on ferait pas de jaloux et ça serait plus facile. Mais voilà, c'est aussi la beauté du sport, c'est qu'il faut faire des choix à des moments et celui-là va être aussi très important, quoi.
Et donc cette année, pour la première fois, deux porteurs de drapeau. Juste une question, est-ce que c'est pas trop deux personnes pour emmener un groupe? Est-ce que ça risque pas de diluer la force de l'image du porte-drapeau? C'est vrai que vous le rappeliez, la dernière fois c'était Teddy Riner en chef de file. On se souvient de Teddy Riner.
Ouais, bien sûr. On n'est jamais trop. Et je pense que l'avantage justement d'être deux, c'est que on peut se suppléer, on peut s'entraider un petit peu. Et puis en plus, je pense qu'il faut pas oublier que là, on a quand même des Jeux Olympiques dans un contexte qui est quand même clairement particulier. Donc, je pense que vu toutes les contraintes que l'on va avoir à respecter à Tokyo, de pouvoir être deux devrait, je l'espère en tout cas, pouvoir donner encore un peu plus de force et puis dans un monde qui ne cesse d'évoluer, je pense que ce côté de parité est quelque chose qui est,
c'est un
qui
vrai
est
message
très important voilà, c'est on se dirige clairement dans une nouvelle ère, quoi.
Vous avez une préférence si jamais vous êtes élu, qui vous verriez à vos côtés? On parle beaucoup de Charline Picon qui est la championne de France de planche à voile, mais il y en a d'autres.
Ouais, il y en a d'autres. Bah, c'est chez les femmes à son set à être présentées. Je dirais qu'il y a pas de préférence pure, mais il y a deux personnes qui pour moi sont un peu plus en avance. C'est Clarisse Agbegnanou et Mélina Robert-Michon. Donc deux raisons complètement différentes. L'une pour la performance pure, parce que Clarisse est la femme en forme du moment. Ouais. Et à côté, Mélina pour vraiment ce côté longévité des 5e Jeux Olympiques, pour vraiment les valeurs qu'elle peut transmettre. Donc, vous voyez, on est clairement dans là. Qu'est-ce que l'on choisit? Et donc il faudra être en mesure d'y arriver. Donc l'avantage, c'est comment on est plusieurs à se poser la même question et donc on aura une vision un peu plus claire, quoi.
Je vais tester votre détermination, Renaud Lavillenie. Je vous pose une question. Vous avez le choix entre porter le drapeau ou repartir avec la médaille d'or.
Moi, c'est la médaille d'or. Hein.
Non, mais j'imagine bien. Aujourd'hui, en tout cas, c'est votre objectif, c'est la médaille d'or.
Ouais, c'est la médaille avant tout, parce que je dirais la médaille d'or, on sait que c'est toujours compliqué, d'autant plus cette année avec l'émergence de Duplantis l'année dernière qui a encore élevé le niveau, mais on sait que sur un championnat, sur des Jeux Olympiques, tout peut arriver. On l'a bien vu à Rio, que en arrivant grand favori, en faisant le concours parfait, on peut quand même être amené à faire deuxième. Ouais. Mais pour moi, voilà, après être monté sur le podium à deux reprises, l'objectif, voilà, il est d'être encore une fois sur le podium. Et on sait que entre la première et la deux ou troisième place, des fois, il n'y a pas grand chose. Et vu ce que j'ai fait cet hiver, évidemment, je pense quand même à l'or, parce que je vais me donner les moyens d'y arriver, en tout cas.
Ouais. Et au moins un troisième podium pour une troisième Olympiade, ce qui serait formidable. Vous serez vacciné? Est-ce que vous l'êtes, d'ailleurs, aujourd'hui?
Non, je le suis pas encore.
Parce que c'est pas une obligation, pour participer aux Jeux de Tokyo.
Non, c'est pas une obligation. Je pense que c'est quand même très compliqué de pouvoir obliger ça, parce que autant il y a certains pays qui se posent pas trop de questions, autant il y en a d'autres pour des questions religieuses, etc. Ils vont pas pouvoir accepter ça. Donc, par contre, nous, en tant qu'athlètes, c'est un peu libre choix. Et moi, je sais que je vais essayer de me faire vacciner. Après, on sait actuellement, notamment en France, à quel point c'est compliqué. Mmh. Donc, il faut pas être pressé. Après, pour être très rationnel, j'aimerais le faire le plus tôt possible pour que, si jamais il y a quelques effets, qu'ils soient le plus loin possible de l'échéance, pour pas que c'est de préjudice sur la préparation. Mais voilà, après, ça n'empêche que on est toujours contraint de suivre les distanciations sociales, enfin toutes les règles sanitaires. Et quoi qu'il arrive, vacciné ou pas vacciné, on sera quand même amené à suivre tout ce protocole. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet qui avance de plus en plus.
Ouais, ce qui est certain, c'est que ces jeux ne seront pas tout à fait comme les autres. D'abord, ils ont déjà été décalés d'un an. On sait qu'il n'y aura que du public japonais. Enfin, le stade olympique ne sera pas rempli. L'ambiance risque d'être un peu tristoune, non, dans les tribunes?
Ça risque d'être différent, mais je pense que honnêtement, quand on voit de là où on vient, on peut se dire qu'on a de la chance d'avoir les JO, parce qu'on aurait clairement pu se retrouver à ne pas avoir les Jeux Olympiques à Tokyo, du tout, ce qui aurait été quand même dans l'absolu une très grande perte pour beaucoup. C'est évident que concourir dans un stade vide ou dans un stade rempli, enfin, après on a la chance déjà d'avoir du public.
Il y aura un peu de public,
même si c'est du public local. Ça reste que c'est du public. Et pour avoir l'expérience d'avoir sauté dans un stade de 80 000 personnes avec vraiment zéro public, je peux vous dire que ça fait vraiment tout drôle. Ouais. Mais par contre, après, on a vu que la compétition entre les athlètes reste là, et le niveau de performance, il est toujours présent. Donc c'est aussi quelque chose dans lequel on peut se rassurer, et que on va vivre les Jeux Olympiques de manière différente. Beaucoup vont le vivre derrière l'écran plutôt que dans le stade. Mais au moins, les athlètes, on va pouvoir en tirer quelque chose, et c'est quelque chose qui est, et je pense que ça nous permettra en plus d'espérer savourer encore plus Paris 2024 si tout va bien,
évidemment,
et qu'on retrouve une vie proche de la normale, quoi.
Avec des stades là, pour le coup, vraiment pleins. Vivement qu'on y soit, vivement dans 100 jours, vivement qu'on vous voit sur ce podium pour cette troisième Olympiade. Et puis alors, j'allais dire, bonne chance, hein, pour cette course au drapeau, puisque vous êtes candidat à être porte-drapeau. Merci beaucoup, Renaud Lavillenie.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Des Jeux qui se dérouleront, on le rappelle, à Tokyo. Et du coup, Julia Molcou, qui est toujours branchée et raccord sur l'actualité, nous emmène au Japon, pays du soleil levant, de la culture de l'actu. À tout de suite.
RTL Soir.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et la culture de l'actu, c'est maintenant, c'est avec Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
On en parlait à l'instant avec Renaud Lavillenie. Coup d'envoi des Jeux Olympiques dans 100 jours, où ça ? À Tokyo. Eh ben voilà, donc vous nous parlez de Tokyo et de culture.
Bah oui, alors je pourrais vous parler de Tokyo dans la culture occidentale.
Oui.
C'est Amélie Nothomb qui nous emmène dans ses livres Stupeur et tremblement et Ni d'Ève ni d'Adam. C'est Sofia Coppola qui choisit un gratte-ciel de la ville comme décor de son film Lost in Translation, ou c'est encore Benjamin Biolay qui veut une chaise à Tokyo. Je voudrais vous parler de la fascination des Tokyoïdes pour l'arrangement floral qu'on appelle Ikebana, ou de l'architecture de la capitale qui témoigne des différentes destructions de la ville, un séisme en 1923 et les bombardements américains en 1945. Mais j'ai envie de vous parler de Tokyo en tant que ville de culture populaire et kawaii. Vous l'avez ?
C'est quoi kawaii ?
Bah, kawaii, c'est petit et mignon. C'est
d'accord.
Un petit mot qui est assez utilisé dans la culture
kawaii,
japonaise.
Kawaii, c'est petit et mignon.
Voilà. Donc
d'accord.
Ça ne vous concerne pas directement,
non,
Vincent.
Non, bah, oui.
Alors, tous les deux ans...
Je suis déjà pas petit.
La plus
reste,
grande, tous les deux ans, la plus grande convention de manga, le Comiket, se tient à Tokyo. Et le manga a, comme la bande dessinée franco-belge, eh bien des origines anciennes. Au 8e siècle, on retrouve déjà sur des rouleaux illustrés de grandes aventures guerrières ou amoureuses. Aujourd'hui, le manga compte autant de genres que d'auteurs, et le titre le plus célèbre d'entre tous, c'est One Piece. Si vous avez des enfants, vous le connaissez. Il a été vendu à plus de 470 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 97.
Moi, je pense que c'est le maître de la forêt que tu as vu. Et dis-toi que tu ne le reverras peut-être jamais.
Kinorziop, comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Mais
470 millions d'exemplaires, vous imaginez le nombre d'auteurs que vous faites rêver avec ça. Alors, l'autre grand phénomène culturel à Tokyo, alors c'est vous qui me l'apprenez, hein. Je ne le savais pas, c'est le studio Ghibli.
Mais oui, le dessin animé se développe dans les années 60 au Japon, mais c'est bien avec la création à Tokyo du studio Ghibli en 85 par Miyazaki que l'animation tokyoïte est devenue un art populaire très exporté dans le monde. Peut-être que vous avez déjà vu des choses du studio Ghibli, c'est par exemple Mon voisin Totoro,
non.
C'est par exemple Princesse Mononoke ou encore Le voyage de Chihiro.
Ah, ça oui.
Et ben voilà. À moins que vous, votre truc, ce soit plus Club Sega et jeux d'arcade.
Ça l'a été.
Et oui, parce que Tokyo, c'est aussi la ville des Game Centers. Alors écoutez-moi bien, Peggy. À Tokyo, vous pouvez jouer 24 heures sur 24 aux jeux vidéo. Et puis dès que vous en avez marre, eh bien vous louez une box dans un karaoké et vous allez vous égosiller sur de la J-pop. Oui, oui.
Bah oui, je t'ai reconnu, Peggy.
Oui, oui, vous pourrez même chanter la Marseillaise version J-pop, cette version chimique et acidulée de la pop qui a su conquérir le monde entier et dont les stars de cette catégorie musicale sont élevées au rang d'idoles par les foules en délire, comme quand vous entrez dans ce studio, Peggy. C'est monstrueux.
Avec la Marseillaise en J-pop, on n'a peut-être pas besoin de se lever quand même, hein, quand on l'écoute. Hein, on peut rester assis quand même.
Et encore, vous n'avez pas le clip. Je vous le recommande vivement.
Allez, c'est ça aussi, la culture de, la, de l'actu, hein, la Marseillaise en J-pop. Encore un petit coup.
Notre réalisateur est complètement démis.
Ah bah là, on est atterré quand même.
Y a de quoi, hein.
Bon, merci beaucoup.
De rien, à demain.
À demain. Et sur cette Marseillaise.